Et voici la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Deux semaines déjà sans nouvelles de Kim Jong-un et l'on n'avait jamais autant parlé de lui dans la presse internationale.
C'est vrai, le leader suprême de Corée du Nord n'est apparu sur aucune photo depuis le 12 avril. Les journaux officiels de la République populaire parlent bien sûr de lui chaque jour, mais sans aucune précision sur le lieu où il se trouve, ce qu'il y fait. Aucune apparition en public et aucun cliché, aucune preuve de vie. En somme, le mot est lâché. Et quand il n'y a pas de preuve de vie pendant si longtemps, eh bien, il y a des rumeurs de mort qui prennent la place. Alors, ça fait donc deux semaines que les journaux du monde entier bruissent de ces rumeurs et de ces questions. Où est Kim? Que fait Kim? Que nous cache-t-on derrière cette disparition? Pour faire le point sur ce que l'on sait avec la revue Foreign Policy, il faut rappeler que ce qui a mis la puce à l'oreille des observateurs internationaux, c'est le fait que Kim Jong-un était absent lors des deux cérémonies de ce dernier mois, parmi les plus importantes sur l'agenda commémoratif nord-coréen, notamment l'anniversaire de la naissance de son grand-père et fondateur du régime, Kim Il-sung. Rater ça, ça ne se fait vraiment pas, ou alors avec une raison impérieuse, reste à savoir laquelle. Ce que l'on sait aussi, selon des informations de l'agence Reuters, c'est qu'en fin de semaine dernière, la Chine a envoyé une délégation de médecins pour porter assistance à Kim Jong-un. Ça peut être un leurre, ça tend en tout cas à prouver que le président est vivant, mais pour qu'un régime si fier et discret habituellement consente à accepter une aide étrangère médicale, qui plus est, c'est que les choses doivent être graves, analyse Doug Bando dans Foreign Policy.
Et faute d'informations de terrain, les journaux se sont résolus, Camille, à traquer les moindres indices depuis l'espace.
Oui, c'est donc toute une série de photos prises depuis des satellites que brandit le site spécialisé NK Pro, repris par le Washington Post, pour nous dire que selon toute probabilité, eh bien, Kim Jong-un se trouve en fait au bord de la mer du Japon dans un complexe balnéaire de luxe situé dans la ville de Wonsan, à l'est donc de la capitale Pyongyang. Ce qui permet d'arriver à cette hypothèse dans cette enquête qui ressemble de plus en plus à un mix d'espionnage et de paparazzi, c'est que des formes correspondant aux dimensions de yacht de la suite présidentielle ont été vues en mouvement autour des pontons et des villas de Wonsan, où Kim et l'élite nord-coréenne ont l'habitude de passer du bon temps au calme. S'agirait-il alors d'un spring break pour un président trentenaire donné mort depuis deux semaines, s'interroge la responsable Asie du Washington Post, Anna Fifield. Plus sûrement, selon NK Pro, ça accrédite l'idée que le leader suprême, plus ou moins malade, s'est cloîtré avec sa garde rapprochée pour se protéger certainement du coronavirus, qui pourtant officiellement, rappelons-le, est absent totalement de Corée du Nord, mais que dans cette quarantaine imposée, il n'a tout de même pas renoncé, Kim Jong-un, à son petit confort. Ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé la gestion des affaires courantes depuis Pyongyang à sa sœur de 32 ans, Kim Yo-jong, devenue en quelques jours une sorte de coqueluche d'internet, tant certains semblent pressés de la désigner comme successeur logique de Kim Jong-un. N'allons pas trop vite en besogne, écrivait hier Arwa Madawi dans The Guardian. D'autant que contrairement à ce que certaines indulgences sexistes disent sur elle, la cadette des Kim a beau être une femme, l'éventualité de son arrivée au pouvoir, comme d'ailleurs toute perpétuation de la dictature familiale, ne saurait être vue comme une bonne nouvelle pour les droits et la condition économique des 25 millions de Nord-Coréens.
D'autant que pendant que son président se terre dans ses villas au bord de la mer, la population de Corée du Nord, Camille, est menacée par un nouvel épisode de famine.
Oui, le mot de famine a en effet été prononcé hier par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans des propos rapportés par l'agence Reuters. Il pointait, Mike Pompeo, les effets supposés de la pandémie actuelle sur les approvisionnements en nourriture de la Corée du Nord. Et c'est vrai que le site NK Pro, encore lui, confirme cette menace. La Chine rapporte dans ses statistiques officielles pour le mois de mars des volumes très réduits d'exportation de produits alimentaires vers son voisin nord-coréen, dont elle est pourtant la Chine d'ordinaire l'un des principaux fournisseurs. Voilà qui vient accréditer les témoignages faisant état de phénomènes de panique collective sur les marchés de Pyongyang où les produits de première nécessité viendraient à manquer. Reuters nous apprend enfin qu'une délégation nord-coréenne va se rendre en cette fin de semaine à Pékin pour tenter de relancer au plus vite ces informations vitales pour tout un pays.
Direction à présent la Suède, Camille, portée au nu par la presse mondiale pour sa gestion soi-disant exemplaire de la crise sanitaire.
Oui, en tout cas, la Suède, d'après la série d'articles élogieux que le New York Times, par exemple, lui a consacré cette semaine, se démarque de ses pays voisins en ayant opté pour une gestion de l'épidémie sans confinement, mais en tentant le pari de l'immunité collective, de l'exposition raisonnée au virus pour arriver à une situation où le plus grand nombre aura été immunisé sans avoir eu besoin de renoncer ni à l'activité économique, ni à la vie sociale, ni aux libertés individuelles. Mais attention tout de même à ne pas décrire notre pays comme un nirvana libertaire, recadre la ministre des Affaires étrangères suédoise Ann Linde dans une interview à Politico Europe. La distanciation sociale s'applique de manière très stricte chez nous et de toute façon, si nous pouvons garder des règles souples, dit la ministre, c'est parce que notre gouvernement bénéficie d'un très fort niveau de confiance dans la population. Vous mesurez, comme moi, ce que ce genre de propos peut avoir d'énervant et de ravageur, surtout pour les autres gouvernements, ceux qui sont réduits par leur propre impopularité à tomber dans le piège des confinements, mais il faut quand même relativiser cette soi-disant vertu générale des Suédois, cette autodiscipline exemplaire. Par exemple, je lis dans l'Aftonbladet que dans la petite ville de Lund, le maire a décidé de faire épandre ce jeudi une tonne de fientes de poulet pour fertiliser les pelouses du grand parc municipal. Mais il a surtout choisi la date d'aujourd'hui parce que il souhaite que l'odeur des déjections dissuade les jeunes de la commune qui d'ordinaire viennent par centaines chaque 30 avril célébrer la fête païenne de Valpurgis, une sorte de Saint-Jean avant l'heure où l'on se réunit autour d'un grand feu de joie. Cette année, pas question donc que ces rassemblements puissent avoir lieu pour des questions sanitaires, bien sûr. Et vous le comprenez comme moi, monsieur le maire ne semble pas avoir jugé bon de s'en remettre à la seule autodiscipline de ses administrés. Comme quoi la vertu scandinave, c'est bien, mais la dissuasion à coups de fientes de poulet, c'est tout de même plus sûr en Suède comme ailleurs.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture. Il est 7h48.